Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie de Jacques Merle. Bonjour.
Bonjour.
Jacques Merle, donc tu es déjà venu plusieurs fois pour nous parler de ton activité de théâtre. Et donc tu es là aussi au nom de la Muse Errante pour nous présenter le festival Voyage au cœur de l'homme, et donc une édition qui commencera à partir du samedi 30 mars, on peut dire.
Oui, c'est le c'est à partir de là que commencent nos grosses journées du festival, même si on a 3 rendez-vous au mois de mars, il en reste encore un. Mais après, oui, ça va être 30 mars, 6 et 7 avril, les grosses journées, ce que j'appelle les grosses journées du festival.
Et actuellement, donc, comme vous appelez ça, les amont du 1er au 26 mars, pour ce qui concerne le voyage au cœur de l'homme, il y a donc actuellement encore des choses à voir.
Oui, il reste un rendez-vous dans une médiathèque au Pouzin, donc un petit peu loin d'ici, au Pouzin en Ardèche, avec une lecture de La Tresse de Laetitia Colombani.
Et donc, cette année est particulière puisque c'est la dixième édition de ce voyage au cœur de l'homme, et peut-être la dernière.
Oui, sans aucun doute, enfin, c'est même acté, ce sera la dernière édition, oui. On va ensuite passer à autre chose. La compagnie La Muse Errante va continuer à exister, à faire mûrir des projets, mais le festival en tant que tel n'existera plus à partir de 2020.
La programmation est toujours aussi riche, hein. Il y a à peu près combien de rendez-vous à prendre avec ce festival ?
Alors, il y a le 30 mars, il y a 5 rendez-vous. Il y en a ensuite 4 à Chabriant le 6 avril. Et puis 3 le 7, le dimanche, le lendemain, à Heure, à l'Écosite, au campus, juste en face de la gare à coulisses. Donc, ce qui fait en tout 5 et 4, 9, 12 rendez-vous, plus les rendez-vous en amont, qui faisaient à peu près une quinzaine de rendez-vous en tout. C'est vrai que c'est assez dense comme programmation.
Dernière année de ce festival, ce sont des coups de cœur qui sont programmés, ou alors il y a une espèce de travail de rétrospective de ce qui a été fait, ou c'est de la nouveauté toujours?
Pour ce qui est du travail de la compagnie, il y a effectivement des reprises de spectacles. Il y a 2 reprises. Et puis après, sur le reste, ce sont des inédits, en tout cas des inédits au festival. Il y a certaines choses qui ont été créées ailleurs, dans d'autres cadres, mais qui seront présentées pour la première fois au festival. Et puis des choses toutes nouvelles aussi. Ensuite, pour les deux artistes, il y a un groupe de musique et une artiste qu'on reçoit en spectacle invité. Donc un pour un apéro-concert, c'est Les Gaspards, le groupe Les Gaspards. Et puis le tout dernier spectacle de Thérèse Bosque. Et ça, ce sont des coups de cœur, évidemment. Ce sont des gens qu'on aime beaucoup, de qui on se sent proche. Et voilà, et je suis très heureux de recevoir Thérèse avec son dernier spectacle, qui est un petit bijou.
La durée de ce festival dure sur 3 journées?
Voilà, c'est 3 journées, 2 samedis, 1 dimanche, sans compter les amonts de mars qui maintenant commencent à être passés. Mais là, sur le festival proprement dit, c'est 3 jours.
Donc, il y aura du théâtre, des lectures, des performances et de l'art culinaire. On mettra ça en détail dans la chronologie. Donc, à commencer par le premier rendez-vous du 30 mars, qui se déroulera donc à Mirmande.
Voilà, c'est ça.
Il y aura plusieurs lieux, je suppose.
Oui, absolument. On donne rendez-vous au public à un seul endroit. Ça a toujours été la particularité du festival. C'est-à-dire qu'il y a un lieu de rendez-vous unique qui est la salle des fêtes, qui est située dans l'enceinte de la mairie de Mirmande. Et ensuite, pour chaque spectacle, on amène le public à pied dans les différents lieux où ils vont se dérouler. C'est le petit côté surprise, excitant de la manifestation, c'est que les gens ne savent pas où est-ce qu'on va les conduire exactement.
Donc du mystère. Alors commencer par la journée à 11h30, hein, c'est un festival qui se lève tôt.
Oui, on commence à 11h30 avec une première lecture, lecture de Sommeil d'Haruki Murakami. qui est une petite nouvelle assez mystérieuse justement. On commence dans le mystère avec Murakami. Et puis après, tout au long de la journée, jusqu'au dernier rendez-vous qui est à 20h30 le soir, on n'arrête pas. Voilà. Après, rien ne se passe en même temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas de rendez-vous simultané, ce qui permet au public de pouvoir, s'il le souhaite, enchaîner sur une journée complète sur tous les spectacles. Voilà.
Je suppose que les horaires donnés sont ponctuels. Hein,
oui.
Pour le bon ordre du déroulement.
Oui, d'autant qu'il y a, comme on emmène les gens dans un autre endroit, on part vraiment à leur pile de manière à arriver 5 minutes après sur le lieu. Ce sont des lieux qui sont très rapprochés, évidemment, on ne part pas très très loin. Et oui, de manière à ce que les choses s'enchaînent et qu'on ne cumule pas un retard qui serait de plus en plus important au fil de la journée, forcément. Oui, les spectacles commencent à l'heure, dans la mesure du possible.
Le premier, après le sommeil, donc le matin à 11h30, vous proposez à partir de 12h30 l'heure du repas, donc un moment où le public peut déguster les préparations faites par Nina Gallini. Alors, est-ce qu'on peut nous la présenter ?
Oui, on a énormément de chance d'avoir Nina avec nous, qui est une cuisinière vraiment hors pair. C'est quelqu'un qui avait un restaurant sur Perpignan il y a quelques années, qui est venu s'installer dans la Drôme. C'est une cuisine qui est fine, extrêmement inventive, surprenante. C'est très très bon, c'est vraiment de l'ordre de la gastronomie. Et c'est un petit point d'honneur sur notre manifestation, c'est que on avait envie de proposer du bien manger. Voilà, des choses préparées. Alors, pour la majorité des dans la mesure du possible, tout ce qui est proposé est à base de produits bio, locaux. Et à partir de ça, elle invente, elle crée. Et on arrive à avoir une cuisine gastronomique à un prix très modéré et qui est accessible à tout le monde. Et ça me plaît énormément. Voilà.
À la suite, après ce repas, donc, à 14h, La fin de Satan, donc un spectacle que tu as déjà donné une multitude de fois, mais qui est certainement très réclamé.
Oui.
D'ailleurs, je crois qu'il y a eu une émission entre nous déjà faite en interview pour
spécifiquement
ce
sur ce spectacle, et... oui, certainement, et même à l'occasion de la sortie du CD, c'est possible. Oui.
Et j'inviterai les auditeurs à. J'y mettrai le lien sur la page s'ils désirent écouter. Et puis, est-ce que justement, par rapport à la fin de Satan, il y a des choses qui t'ont bouleversé ou des choses qui t'amènent une autre vision de la fin de Satan?
Oui, de toute façon, c'est un peu ça sur tous les spectacles et tous les textes sur lesquels on travaille. C'est-à-dire que on ne fait pas un théâtre militant. Voilà, je considère que ce n'est pas du théâtre militant. On ne cherche pas à mettre en scène des personnages d'aujourd'hui dans une problématique politique et sociale d'aujourd'hui, mais à travers des personnages qui peuvent venir d'une autre époque, après avec une écriture qui est très théâtrale. On n'est pas sur du naturalisme, on n'est pas sur quelque chose qui parle concrètement des problématiques d'aujourd'hui, mais qui ont des échos. Qui ont des échos retentissants sur ce qui peut se passer dans notre époque. Donc forcément, les échos sont différents par rapport à ce qu'on peut vivre à l'instant T où est proposée la représentation. Donc les textes prennent une tournure autre, forcément. À chaque fois qu'on les reprend, ça s'inscrit dans un autre contexte social et donc forcément, ça prend une dimension supplémentaire.
17h, ensuite, La Réussite, par Thérèse Bosque, un beau spectacle que j'ai déjà eu l'occasion de voir. Ça dure quoi, une heure maximum.
Oui, une heure dix, peut-être à peine. Mais c'est une heure. C'est un spectacle assez court. Thérèse est quelqu'un qui a une multitude de cordes à son arc. C'est une merveilleuse musicienne, c'est une très très bonne comédienne. Et sur ce spectacle, sur ce solo, elle allie tout ça, c'est-à-dire qu'elle vient avec ses instruments, donc elle joue Elle joue du saxo, bien sûr, mais elle joue de pas mal d'autres instruments. Elle se sample et puis elle raconte des histoires. Elle se confie sur son expérience d'actrice, alors qui est universelle, c'est-à-dire que ça reste pas dans quelque chose de très confidentiel qui serait un peu de l'ordre de la private joke, mais c'est quelque chose où tout le monde y ressent quelque chose qui lui est propre et proche. Il y a des rapprochements. C'est très humain, c'est drôle, c'est émouvant, c'est ouais, j'aime vraiment énormément ce spectacle.
Un beau moment, et je confirme. À 18h30, donc, Les Gaspards, donc Little New York, dans ton bled, ça parle de quoi exactement?
C'est un groupe d'Ardèche qui s'inspire de musique du monde, c'est empreint d'un petit peu de jazz, d'un petit peu de rap, ça a des influences très très éclectiques, c'est très festif, et je trouvais ça bien qu'on ait ça au milieu de nos journées. C'est vrai qu'on est sur des propositions de spectacles et de textes qui sont assez denses, qui racontent des choses parfois un petit peu sombres, toujours assez exaltées, et avoir comme ça un moment de respiration très festif, ça me plaisait assez. Et il se trouve qu'on est assez proche avec Les Gaspards, qui suivent notre compagnie et le festival depuis longtemps. Certains d'entre eux ont été même bénévoles pour le festival, et c'était une manière de les remercier aussi, et puis d'accueillir ce concert que j'aime beaucoup. Voilà, avec Samantha Higuéry, Vincent Landel, Stéphane Pardon et Cyril Sapon.
Par contre, tu parlais de soirée, mais la soirée, c'est à 18h30.
Oui, la soirée commence à 18h30 avec cet apéro-concert. Oui. Donc c'est un apéro-concert, c'est gratuit. L'apéro, non, bien sûr, mais le concert en lui-même est gratuit. Il y aura notre chef cuisinière va proposer des tapas, donc il y aura possibilité de manger en même temps ou de manger après, enfin à la convenance de chacun, pour enchaîner après avec le rendez-vous de 20h30, où là on est sur du théâtre vraiment.
Voilà, donc du théâtre en triptyque, hein, avec trois thèmes. Comment c'est présenté? Trois pièces différentes de Heiner Müller?
Ouais, ce sont trois pièces différentes, mais nous on en fait un seul spectacle. C'est aussi pour ça que je l'ai appelé triptyque Horace, Médée Matériau, Hamlet Machine. Donc Horace, Médée Matériau et Hamlet Machine sont les titres respectifs des trois pièces, des trois courtes pièces de l'auteur. On l'a appelé triptyque et pas trilogie, parce que pour moi il y a quelque chose d'assez pictural dedans. C'est un mot qui vient de la peinture, hein. Le triptyque, c'est peinture, c'est tableau en trois volets comme ça, et qui mis ensemble forment une œuvre unique, voilà. Et c'est un peu ça, mettre bout à bout ces trois pièces, c'était en faire une seule œuvre et un seul spectacle, parce qu'il y a beaucoup d'écho entre chacune de ces pièces.
Et comment se présente la scène justement pour ce spectacle? Elle serait divisée en trois parties avec les trois acteurs ou comédiens en même temps?
Alors c'est un petit peu plus complexe entre guillemets que ça, c'est-à-dire que le public est inclus dans la scénographie du spectacle. Donc le public est divisé en quatre parties, dans les parties extérieures d'une croix. Voilà, dans chaque carré que forment les branches de la croix. Avec une pièce qui se passe dans la croix, une autre pièce qui est en frontale d'un côté et une autre pièce qui est dans leur dos. Ils sont sur des sièges, le public est sur des sièges où il peut tourner justement pour regarder d'un côté, de l'autre. Donc il y a vraiment une grande proximité avec le public, et ça c'est vraiment la marque de fabrique de la compagnie. On est toujours sur ce type de proposition-là, c'est-à-dire qu'on aime avoir les gens très très proches de nous pour leur parler vraiment et leur adresser ce texte. Donc voilà, c'est une configuration un petit peu particulière, une immersion vraiment dans le spectacle dès l'entrée dans la salle.
Ces trois spectacles sont issus en partie de textes anciens,
ouais.
Et repris et retravaillés par Heiner Müller,
ouais.
Je suppose.
C'est la particularité d'Heiner Müller, oui, justement, c'est qu'il a travaillé sur des textes du théâtre classique, du théâtre antique, et il en a fait des pièces qui étaient... il a extirpé les personnages principaux de ces pièces-là et on a fait une nouvelle pièce conforme à sa contemporanéité à lui. Il a écrit ça dans les années 70. On peut se dire que ça date un petit peu. Lui était un auteur de l'Allemagne de l'Est. Donc ça parle beaucoup de la révolution à l'Est, de son échec aussi, de ce constat qu'il fait de l'échec de la révolution, pour lui en tout cas. Donc à travers ses personnages et ce qu'ils vivent dans l'histoire d'origine, c'est-à-dire que c'est cette histoire ancienne mise à son époque, et nous on vient rajouter une couche là-dessus et la mettre à notre sauce, c'est-à-dire dans notre propre contemporanéité à nous. Voilà.
Qu'est-ce qu'il en ressort de ces textes? Tu disais qu'ils dataient un peu. Il y a des choses, d'ailleurs, est-ce que tu t'es permis toi-même de transformer ou de travailler en plus les textes de Heiner Müller comme lui a fait pour les textes classiques?
Alors, absolument pas, justement, parce que effectivement, on peut se dire que c'est une écriture qui pourrait être datée parce que ça... Ben ça a 40 ans maintenant, donc voilà. Et en fait, pas du tout, parce que c'est vraiment un matériau. D'ailleurs, une des pièces le dit bien, c'est « mais des matériaux ». C'est un matériau, ce texte. Et il est pour moi totalement intemporel, parce que c'est une matière en soi. C'est difficile à décrire comme ça ce que c'est que cette pièce et cette écriture, mais c'est une écriture qui est très charnelle, très poétique, mais dans une poésie contemporaine. On n'est pas dans la versification, c'est de la prose, bien sûr. C'est quelque chose de très brut, qui parle de pouvoir, qui parle de manipulation, qui parle de victimes de ces pouvoirs-là, de comment on s'en sort face à ce pouvoir oppressant. Et c'est quelque chose qui est complètement d'actualité, et je pense que si vous venez écouter ce texte, vous n'aurez aucun problème pour vous dire que ça pourrait être, que ça pourrait avoir été écrit là, il y a l'année dernière ou peut-être il y a 6 mois.
Ça clôturera donc cette journée du 30 mars. Comment s'organise un festival au sein d'une ville comme Mirmande?
En
logistique, en préparatifs?
Alors, ce sont des préparatifs en amont, c'est-à-dire qu'on vient faire les montages avec l'équipe technique la veille et même l'avant-veille. C'est sur place une équipe d'une dizaine de bénévoles qui, depuis le début du festival, mettent la main à la pâte et viennent soutenir l'équipe technique et l'équipe artistique. Voilà, c'est eux qui accompagnent le public sur les lieux. C'est eux qui sont au bar, à la restauration, à la billetterie, à la librairie, parce qu'on a aussi un rayon librairie pour permettre aux gens de feuilleter des textes. Donc oui, c'est une logistique assez conséquente, mais ça commence à être bien huilé tout ça, et on s'en sort plutôt pas mal, je crois.
On passe à la deuxième partie de ce triptyque festival. Mmh. Alors, ça sera à Chabriant le 6 avril, oui. Avec une journée qui commence encore plus tôt, la raclée de verre. Mmh. Donc ça sera une lecture, par toi, de Caryl Ferret.
Oui. Caryl Ferret est un auteur de polar assez, assez rentre-dedans, c'est assez trash, assez rock'n'roll. Et là, ce raclé de verre est un tout petit polar, voilà. C'est une lecture théâtralisée qui est assez incarnée, celle-ci, pour le coup. Ce qui n'est pas forcément le cas des autres lectures. Même si on est engagé émotionnellement, même si on est engagé vocalement, cette lecture-là est particulièrement... interprété. Et voilà, on suit un tueur en série, en fait, dans les années 80, qui est fan de foot et de l'équipe des Verts de Saint-Etienne et qui assassine des femmes pour les voler et gagner sa vie, en quelque sorte. Et on suit ce personnage qui est absolument infâme, sexiste, raciste, enfin, il a toutes les qualités qu'on peut lui trouver. Et voilà, c'est vraiment très jubilatoire, très désopilant. Il a une écriture très très incisive, Caryl Ferret. Il fait pas les choses à moitié quand il s'amuse à dépeindre des personnages comme ça, absolument odieux, infâmes. Et on finit par il se trouve que là, au fur et à mesure de ses crimes, des changements assez radicaux s'opèrent en lui à chaque fois, donc ils vont complètement bouleverser sa vie. Et on finit par s'attacher à ce personnage tellement il est poussé à l'extrême de tous les défauts qu'on peut trouver malheureusement chez l'être humain. Voilà.
Ensuite, l'heure du repas, hein, toujours à 12h30, toujours mm-hmm. avec Nina Gallini. Ouais. On ne peut pas affirmer les futurs plats qui seront présentés.
Non, c'est en train de se dessiner. Ben, comme je l'ai dit, la soirée apéro-concert, là, ça sera une soirée plutôt tapas. Là, ça va être plutôt un repas plus traditionnel. En tout cas, il y en a pour tous les goûts parce qu'il y a des préparations véganes, il y a des préparations végétariennes, il y a des préparations carnivores. Donc, en fait, il y en a vraiment pour tout le monde. On essaie d'être vigilant à ce que tout le monde y trouve son compte. Et je ne peux pas dire très précisément ce qu'il va y avoir dans chaque plat, mais vous pouvez appeler quand vous réservez, vous pouvez demander ce qu'il y aura à manger, je serai en mesure de vous donner quelques précisions sur le sujet.
À 14h, il y aura Anima de Wajdi Mouawad.
Ouais.
Alors ça sera aussi une lecture en scène.
Oui.
Alors qu'est-ce qu'une lecture en scène, justement ?
Alors, une lecture en scène, c'est une lecture qui est vraiment sur un espace scénique, alors qu'il y ait une scène ou qu'il n'y en ait pas, que ce soit au sol ou non, mais avec vraiment une configuration frontale, une mise en espace comme une pièce de théâtre. Sauf qu'on est en lecture, donc c'est un rapport au texte qui est différent qu'une pièce de théâtre jouée. Sur celle-là, il y a en plus un vidéaste qui s'appelle Bruno Wagner qui a fait un travail vidéo sur le texte à partir du mode de narratif du texte qui est très très particulier. Ça, c'est la petite surprise de ce road trip, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans ce bouquin. Et donc voilà, c'est vraiment avec une création lumière, avec une création sonore, avec une mise en espace, une mise en scène, vraiment une scénographie, voilà, ce que nous on appelle lecture en scène.
On peut parler aussi de l'équipe hein, qui est autour de ce spectacle. Qui sera la lectrice sur la photo ?
Alors, il y a ma complice Nathalie Vidal qui est là depuis quasiment le début du festival, qui est une comédienne qui est sur Toulouse et que je fais venir chaque année. Voilà, parce qu'on a une belle complicité, qu'on se comprend et que c'est vraiment ma collaboratrice artistique sur tous les projets. C'est au-delà d'une lectrice ou d'une comédienne, c'est vraiment ma partenaire. C'est elle qui me conseille aussi, qui prend un peu du recul quand moi j'ai du mal à en avoir. On travaille vraiment en adéquation. Et donc elle sera avec moi sur cette lecture de Anima de Wajdi Mouawad.
À la lecture de la programmation, le voyage au cœur de l'homme, on pourrait penser que l'homme a un cœur noir quelque part.
Oh oui,
bien sûr. Par rapport aux propositions faites, la mort est très présente.
Oui, la mort est très présente, l'oppression est très présente. Justement, c'est ça que j'aime bien au théâtre, et même sur des lectures, c'est de pouvoir exorciser, exulter, exhorter ces choses. C'est montrer ce cœur noir, essayer de l'ouvrir sur quelque chose de positif, parce qu'il y a toujours, ça aussi, le tourner en dérision. On est sur un théâtre qui est très outrancier, qui est presque parfois un peu grotesque au bon sens du terme. Et oui, ça me plaît assez d'explorer ce cœur noir et puis d'explorer la folie humaine sous toutes ses formes. C'est déjà aussi un matériau. La folie est un matériau infini pour l'acteur. C'est dans ces retranchements-là qu'on arrive à sortir beaucoup de choses, à être inventif, créatif. On est tous un peu fous à un certain endroit, je crois, et les acteurs peut-être encore un peu plus que les autres, je ne sais pas. Mais oui, c'est vrai qu'on explore beaucoup la part sombre de l'homme, sans s'apesantir, sans être lourd, mais en jouant de ça, justement.
Est-ce que Pasolini est un auteur auquel tu voudrais travailler aussi ?
Ah, ça pourrait. Ah oui, ça pourrait. Complètement. Ça rentre tout à fait dans les auteurs qui pourraient s'inscrire dans le travail de la compagnie. Complètement. Complètement.
Donc à prévoir peut-être dans un prochain temps.
Oh oui.
Et puis on passe dimanche. Hein. Ah non, qu'est-ce que je dis moi ? On reste toujours samedi. À 17h en fait, ce sont les reprises du spectacle qui sont proposées de nouveau. Donc,
oui, on reprend la fin de Satan de Victor Hugo. Et on reprend à nouveau le soir à 20h30 après la pause repas à 19h30, à partir de 19h comme d'habitude.
Le
triptyque Heiner Müller, tout à fait.
Et donc là, cette fois-ci, dimanche 7 avril, là c'est 11h30 avec une saison littéraire. Donc ce seront principalement des lectures. Hein.
Oui, alors là, ce dimanche-là, ce sont trois lectures. Cette première lecture qui est proposée donc à 11h30, si je ne dis pas de bêtises. Donc une saison littéraire, c'est en fait quelque chose qui est issu d'une commande des cafés littéraires de Montélimar. En fait, j'ai participé au café littéraire de Montélimar l'année dernière. Et donc voilà, on m'a confié un certain nombre de bouquins. Il fallait que je fasse un montage et que je crée une lecture. Il se trouve que j'étais assez contente du travail qu'on a fait là-dessus et que j'avais envie de le reprendre et de faire découvrir ces extraits. Donc c'est un montage fait de 11 extraits de romans qui sont sortis donc la saison littéraire dernière. Donc c'est la saison, on va dire, 2017-2018, voilà. On y parle beaucoup de... Ben c'est toujours pareil, hein, on y parle beaucoup de l'homme sur toutes ses faces. C'est-à-dire qu'il y est question de déportation, il y est question d'esclavage, il y est question de banlieue, il y est question de conditions de la femme. Alors, tour à tour avec des textes parfois... touchant, sombre, c'est vrai, assez dur, et puis d'autres textes qui sont carrément burlesques, drôles. Là, on balaye vraiment le paysage littéraire d'une saison à travers ces auteurs-là et ces extraits. Et voilà, ça donne un moment, là, pendant une heure et quart à peu près, qui est très fleuri, très varié, et voilà, ça me plaît bien ça aussi. C'est rare qu'on travaille sur des extraits, sur des montages d'extraits, moi j'aime bien plonger dans une œuvre complète. Là, ce sont des extraits, et c'est assez intéressant aussi.
Et puis, comme tous les autres jours, hein, l'heure du repas à 12h30, l'après-midi, 14h, la tresse, de nouveau représentée, et Anima.
Oui, et Anima à nouveau à 16h.
Et ce qui clôturera ces trois journées, donc.
C'est ce qui clôturera ces trois journées, tout à fait.
Alors, ces 10 ans de voyage au cœur de l'homme ont permis quoi ?
Ont permis des rencontres avec un public de plus en plus fidèle d'année en année. Alors, un public qui se renouvelle aussi, mais un public de fidèles. Des rencontres très touchantes avec des gens qui sortent des représentations et nous envoient des témoignages par mail, des écrits parfois, voilà, ils écrivent sur un bout de papier, ils nous le laissent à la billetterie pour qu'on l'ait après, des gens qui viennent témoigner de ce qu'ils ont vécu, de comment ils l'ont vécu, de la découverte que ça a pu être pour eux d'aller, pour certains, pour la première fois, écouter un texte d'auteur lu ou joué, un certain théâtre vers lequel ils n'ont pas l'habitude d'aller parce que ce sont des propositions, bah, en tout cas sur le territoire, qui sont assez rares. Et puis, ils n'ont pas forcément la démarche d'aller dans des théâtres plus loin pour écouter ce genre de propositions. Et donc, c'est ça avant tout. Je suis assez fier d'avoir fait découvrir des choses à des gens. C'est aussi un travail en équipe. Une équipe assez soudée, que ce soit au niveau des bénévoles, tant de l'équipe bénévole que de l'équipe artistique. Et c'est une belle expérience, une très très belle expérience, avec des prises de risques, avec des fois des situations qui sont pas complètement confortables, mais avec cette volonté de défendre un propos et un échange avec les gens. Voilà.
L'affiche est faite par Caractère.
Oui, l'affiche est faite par Caractère Communication, oui, qui est une équipe qui est dirigée par un graphiste qui s'appelle Philippe Maresco et qui est à Montélimar. qui fait toutes les affiches de notre festival depuis 2011. Donc il n'a pas fait les deux premières années, mais ensuite il a fait toutes les éditions derrière. Et j'aime beaucoup comment il travaille. On a un rapport d'échange entre nous, ils nous font des propositions, on leur renvoie, on leur fait un retour sur ces propositions, ils retravaillent dessus. Il y a vraiment un échange sur ce travail-là, qu'ils connaissent aussi. Ils ont vu, pour certains, le travail, certains de l'équipe ont vu le travail, et Philippe en particulier. Et c'est lui personnellement qui a fait l'affiche cette année d'ailleurs.
Et puis, pour les auditeurs qui souhaitent la programme, voir où trouver la programmation. Elle est certainement distribuée dans les offices de tourisme ou dans certains lieux comme librairie, je suppose.
Oui, tout à fait.
Et puis, il y a le site internet. Donc, en écrivant d'un seul mot, muséerante, hein, avec les deux .com.
Tout à fait, c'est ça.
Et puis, qu'est-ce que vont être la compagnie muséerante pour les prochains temps?
La compagnie La Muse Errante a déjà d'autres projets, notamment une suite au triptyque, parce qu'on ne s'arrête pas là. On va continuer, on va monter un quatrième texte de Heiner Müller. Ça sera un polyptyque Heiner Müller, avec donc les trois pièces qui sont présentées dans le triptyque, plus une quatrième avec des nouveaux acteurs, avec les trois acteurs qu'il y a déjà dans le triptyque, plus deux ou trois autres nouveaux acteurs. Ça va être un assez gros projet qui devrait venir voir le jour en 2020-2021. Et ensuite, j'ai un projet encore sur le territoire où j'aimerais explorer la forêt. Voilà, le thème de la forêt lieu de refuge, mais aussi la forêt dans ce qu'elle peut avoir d'inquiétant, d'inconnu, ce qu'on lui fait subir, ce qu'elle nous renvoie, cette nature. Voilà, alors à travers des textes qui en parlent, et faire vraiment un parcours en forêt, voilà, qu'on est en train d'imaginer. Voilà, donc il y aura une muse en forêt à venir au beau jour.
Une aventure comme Voyage au cœur de l'homme, ça vous retenterait dans un temps plus...
Pourquoi pas ?
Plus lointain peut-être ?
Pourquoi pas, je ne suis fermé à rien. On arrête aussi parce que je trouve que c'est... Enfin, ça l'a toujours été, mais... c'est de plus en plus compliqué de réunir les partenaires nécessaires. Que ce soit les institutions, que ce soit les communes qui accueillent le festival, y a un petit peu de frilosité, y a des moyens qui sont de plus en plus réduits, et je suis un peu fatigué de ça, je crois. Cette chasse à la subvention, au financement, au partenariat, c'est compliqué, et je crois qu'au bout de 10 ans, j'en ai un peu assez. Mais pourquoi pas, sous d'autres conditions, autrement, bien sûr.
À chercher.
Oui.
Eh bien, en tout cas, Jacques, merci d'être venu.
Avec grand plaisir, merci de m'avoir accueilli.
Et puis, je rappelle aux auditeurs le Voyage au cœur de l'homme qui va se dérouler sur 3 journées, du 30 mars, 6 et 7 avril. Eh bien, bonne soirée.
Merci, bonne soirée. Au revoir.
Thank you.